Au Café Action, du lundi au vendredi, de 9h à 12h, hors de Kinshasa, avec Nicole Gaka et Jody Nkashama.
Non, j'aime lui battre la tête. Pourquoi on m'a l'arrêté? La salle à l'arrêt, le roté, non, on m'explique à faire le roté, la salle à l'arrêt. Si on m'a l'arrêté, la soigner, on m'a dit que je vais vivre. On m'a la soigner, et nous autres, on m'a dit que
ma maman est belle, elle est zéro. Peut-être que mon enfant est malade, à revendre, un jour, on se rend compte qu'il y a une consultation prénatale, là, on m'a dit que la malaria, ma maladie, moi, est belle.
Plusieurs cas de décès dus au paludisme sont enregistrés chaque année en République démocratique du Congo. Selon nos sources, la malaria, maladie transmise à l'homme par l'anophèle, touche beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Pour prévenir le paludisme chez la femme enceinte, il est possible de la soumettre à une thérapie appelée traitement préventif intermittent. Nous aurons tous les détails tout à l'heure avec notre invité, Dr Coco Kupungu. Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, vous pouvez déjà réagir au 081 070 2050. En province orientale, certaines associations paysannes de cultivateurs de manioc améliorés se sont abandonnées. En outre, les champs de manioc de certains paysans ont été envahis par les hautes herbes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sauver les cultivateurs et surtout leurs champs? Nous aurons tous les détails avec notre invité dans un instant. Et nous avons déjà en ligne Aliana Alipanagama. Aliana, vous avez fait une enquête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver les cultivateurs de manioc?
Exactement, c'est le problème qui se pose avec Akite Nikonaka, parce que la population, tous ces paysans, tendent la main à FAO et à l'Institut international d'agriculture tropicale. La FAO qui doit distribuer ses boutures de manioc pour ces paysans tarde encore à venir. Et puis, l'Institut tropical de l'agriculture tropicale qui devait apporter le financement pour l'achat des matériaux arachnoïdes et puis pour les fonds pour les charclages tarde toujours à venir et entre-temps, les champs sont abandonnés, les herbes poussent, voilà, et autant de problèmes que se posent pour les chefs de culture de manioc qui est estimé à environ 160 hectares de terre cultivables pour la ville de Kisangani, ses environs.
Nous savons que le manioc est l'aliment de base de tous les Congolais hein, en général. Alors, on a des cultivateurs de manioc un peu partout au Congo. Cultivateurs de manioc, si vous avez des questions, vous pouvez réagir au 081 070 2050. Et pour ceux-là qui nous suivent sur Internet, écrivez-nous action@radiocapi.net. Aliana, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le reste des sujets développés aujourd'hui dans Okapi Action avec vous, Jody Kachama.
Oui, Nicole, nous serons à Mbujimayi pour parler de l'intermédiation bancaire au Kasaï oriental. À Kinshasa, nous reviendrons pour parler de l'assurance automobile et nous parlerons également de la construction d'une autoroute, le projet de construction d'une autoroute à Kinshasa. Mais dans le cadre de la chronique La Bénévolentia, nous parlerons de la passivité des témoins qui engendre la violence. Voilà les tout, tous les titres pour aujourd'hui.
Alors, une fois de plus, nous invitons tous ceux qui ont des questions, des propositions, des réactions à faire hein, sur le sujet que nous développons dans cette émission. Vous pouvez nous appeler au 081 070 2050 pour envoyer votre SMS. Si vous voulez témoigner directement dans cette émission, appelez-nous à un autre numéro qui n'est autre que le 081 890 63 94. Et pour ceux-là qui nous suivent sur Internet, écrivez-nous à action@radiocapi.net. À la mise en œuvre de Jean-Noël Mokondo, à la réalisation Rivion Déjà, cette émission est coordonnée par Jolie-Laure Mbalevoto. Allez, bonne suite des programmes à travers Radio Capi. Nous apprenons que plusieurs cas de décès dus au paludisme sont enregistrés chaque année en République démocratique du Congo. Ce sont les sources que nous avons d'après le programme national de lutte contre le paludisme. Alors, il faut savoir que la malaria, c'est une maladie transmise à l'homme par l'anophèle, le moustique anophèle, et ça touche beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Alors, aujourd'hui, je dis là en barivoto, puisque vous êtes penché à ce sujet, nous savons que bien des femmes enceintes, malheureusement, ne sont pas au courant de la thérapie, puisque nous parlons justement de la malaria qui expose bien souvent les femmes enceintes. Vous qui avez eu à suivre un peu l'évolution, vous qui avez eu à vous rendre dans certains hôpitaux de la place pour faire une enquête, qu'est-ce qu'on entend réellement par le traitement préventif intermittent, parce que c'est le traitement qu'on conseille plus aux femmes enceintes?
Oui, selon le programme national de lutte contre le paludisme, 41% de motifs de consultation externe chez les femmes enceintes et 54% des hospitalisations chez les mêmes femmes sont dues à la malaria. Pour les protéger face au paludisme, un traitement préventif a été mis en place parce que le paludisme est très dangereux chez la femme enceinte, il faut le dire. Il s'agit du traitement préventif intermittent. C'est une dose ou traitement qu'on administre à la femme enceinte, d'abord à partir de la 16e semaine de sa grossesse. Et l'administration de ce traitement préventif dépend aussi de l'âge de la grossesse. À cet effet, nous avons joué au téléphone Justin Bagoula, il est manager national du programme Malaria au sein de l'association de famille de santé familiale ASF. Il nous explique ici comment cette prévention est prise en charge par d'autres organisations.
C'est une dose de Fensidar qu'on donne à la femme enceinte et il est conseillé que la femme enceinte prenne cette dose-là au niveau du centre de santé. On peut traiter la femme enceinte de la malaria aussi. Mais là, il y a des aspects à voir. Il faut voir si la femme enceinte n'est pas séronégative ou n'est pas séropositive parce que pour ces catégories de femmes enceintes aussi, il y a des types de traitements à faire. Et si elle n'est pas dans l'une ou l'autre catégorie, il y a aussi des types de traitements à faire. Ce qu'il faut retenir pour le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, c'est ce qu'on appelle couramment TPI. La femme enceinte se présente à la CPN après la 16e semaine. Après la 16e semaine, elle a droit à la première dose. La deuxième dose va intervenir dans l'intervalle d'un minimum de 4 semaines, c'est-à-dire un mois à peu près, et un intervalle maximum de 13 semaines. Ça, elle peut recevoir la deuxième dose. Il ne faut pas donner à la femme enceinte la SP, donc le Fensidar, à partir de la 34e semaine.
On aura l'occasion de décortiquer un peu plus ça, les explications données par ce responsable que vous avez eu l'occasion de rencontrer, Julie-Laure Justin Bagoula, qui est manager national du programme Malaria au sein de l'association de santé familiale. Donc on pourrait revenir là-dessus avec notre invité, Dr Coco Kufumbu, qui est déjà dans ce studio avec nous. Alors, est-ce que beaucoup de femmes savent qu'il existe ce traitement intermittent, hein, le traitement préventif intermittent, qui les protège contre la malaria?
Selon ce qu'on dit tout à l'heure, la femme enceinte est plus exposée à la malaria. Toutefois, il est possible aussi de la prévenir de cette maladie en la soumettant au traitement préventif intermittent, comme vous le dites. Malheureusement, bien des femmes enceintes ne sont pas au courant de la thérapie. En plus, certaines d'entre elles se rendent en retard dans les formations médicales pour les consultations prénatales. Et la plupart aussi des femmes sont analphabètes. En plus, elles ne connaissent pas l'âge de leur grossesse. Écoutez.
Là, j'aime mieux battre la tête. Pourquoi j'ai malaria? C'est ça, la rien le retient dans la musique à faire le retient dans la campagne. Sur malaria, le soigner, c'est comme un souk au vivant. Ce qui est car la soigner, nous autres, la maille est une.
Monsieur Sagos a la veine il y a 3 mois, il a eu beaucoup de hydraté exactement. Alors qu'un hôpital boy a qu'il se trouve à la veine exactement il y a 3 mois. Ma sang au bébé va t'en aller à l'hôpital. Elle va jouer à la veine, elle va se trouver à l'éclater, elle va l'éclater.
Monsieur Sagos a fait la veine il y a 6 mois. Et qu'il y a 6 mois, il y a eu la séance de 2 mois. Alors que si tu en as besoin, on va venir le braquer, mais il va venir à bout de ma mort.
Mais qui chasse à la et ça va quoi mingi, ma maman est de l'air, elle vient, va se rendre compte que tu as un jeune, il dit moi que non, à qui n'a pas hôpital, à qui n'est pas consulté bien médecin, bien mini, avant de dire, peut-être que mon agent va malade et belé, parce que le malade est comme belé, à quoi vendre un jour, on va se rendre compte qu'il y a une consultation prénatale, là, au coup, ma couma, au cas où il y a une malaria.
Ma maman est belée à Zeni, qui n'a pas l'hôpital pour la consulter, autrement dit,
de nombreuses femmes enceintes ne vont pas à l'hôpital pour se faire consulter. En tout cas, ça ne leur dit absolument rien. Conséquence, dans bien des cas, lorsque le moment d'accoucher arrive, eh ben, elles sont surprises et bien des fois, elles sont parfois exposées à certaines maladies telles que le paludisme. Je dis alors, quelles sont les conséquences du paludisme chez la femme enceinte?
D'après les médecins contactés, les femmes enceintes sont plus exposées à la malaria parce qu'elles voient leur immunité diminuer à cause de leur état de grossesse. Et les conséquences de la malaria chez la femme enceinte sont multiples ou variées. On peut citer l'anémie, le faible poids de l'enfant à la naissance, les morts néonatales et les décès maternels. D'autres détails, nous avons joint au téléphone le docteur Chamala, médecin interniste à la clinique Balema.
Il explique. Il est aussi dangereux pour la mère que pour l'enfant. Pour l'enfant, parce que l'enfant peut naître avec ça, si ça vient arriver jusqu'à la fin de sa croissance utérine. Parce que souvent, lorsque la mère a ça, elle avorte, hein, ou plutôt le fœtus ne parvient pas à arriver jusqu'à maturité. Si la malaria de la mère n'est pas traitée, bon, l'enfant risque de naître avec ça. Un enfant qui naît n'a pas de protection par rapport à son système immunitaire, hein, donc il peut faire une malaria beaucoup plus grave, d'une part, et d'autre part, il peut aussi faire une anémie à la naissance due à ce que nous appelons une hémolyse, donc une destruction des globules rouges dès la naissance, qui va peut-être laisser une transfusion sanguine, avec comme conséquence tous les dangers que ça peut comporter de transfuser un enfant nouveau-né.
Mmh. Comment se fait finalement le traitement de la malaria chez la femme enceinte? Est-ce qu'il existe réellement un traitement curatif?
Le docteur Rita Mbemba, chef du service de partenariat externe au programme national de la lutte contre le paludisme, soutient et indique qu'en cas de malaria, on administre un traitement à la quinine, à la femme enceinte. Elle souligne que si la femme enceinte ne fait pas de contraction, la quinine lui sera prescrite en plus d'un médicament anti-fièvre. Et par contre, si des contractions préexistantes loin du terme se manifestent, on va administrer à la femme enceinte la quinine, une anti-fièvre et une anti-contraction. Et au cas où la femme enceinte serait à terme et présenterait des contractions, elle recevra la quinine et un médicament anti-fièvre, mais elle souligne qu'on ne va pas lui administrer un médicament contre les contractions.
Finalement, il y a beaucoup de médicaments qu'on administre à la femme enceinte pour éviter justement qu'il y ait des conséquences. Nous avons la quinine et puis un autre médicament contre les contractions. Et puis, que sais-je encore? Qu'est-ce qu'on sait encore? On aura d'autres détails avec notre invité. Pour ceux-là qui ont des questions, qui nous suivent, peut-être que vous nous suivez à Kanyabayonga, hein. Vous souhaitez réagir, femme enceinte. On s'adresse surtout aux femmes enceintes aujourd'hui dans cette émission. Mais bon, la question concerne aussi les hommes, puisque ce sont les hommes qui encadrent les femmes. Allez, posez vos questions au 081-070-2050 et écrivez-nous aussi action@radiocapi.net. Pour évoluer sur la question, comment éviter toutes ces conséquences chez une femme enceinte?
Oui, Nicole, selon l'Association de santé familiale, ASF en sigle, leur politique nationale recommande pour la femme enceinte deux types de prévention. Dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de se protéger contre les piqûres des anophèles et le traitement préventif intermittent. Et concernant le dernier type de prévention, l'ASF ne prend pas encore ce traitement en charge ou en compte, mais nous vous proposons ici d'écouter Justin Bagoula, il est manager national des programmes à la gestion de l'ASF.
Le plus important, c'est d'abord d'arriver à sensibiliser la personne sur le danger qu'il y a. Quand la personne a été sensibilisée et qu'elle a sorti même le 0,5 dollars, ça représente à peu près 250 francs congolais, ça lui donne une conscience d'utiliser. Parce que vous pouvez donner gratuitement des produits, mais pas forcément l'utiliser. La fréquentation aussi de nos centres de santé n'est pas maximale. C'est-à-dire que si nous voulons avoir vraiment la couverture totale, la stratégie de distribution par les centres de santé n'est pas forcément le point culminant. Il y a des distributions gratuites qui peuvent se faire, on ne refuse pas. Quand on a identifié un groupe bien déterminé qui sont vraiment financièrement vulnérables, il y a des distributions gratuites qu'il faut faire. Tant que c'est un problème de santé publique. Pour le moment, nous, avec ce projet, nous intervenons dans 7 provinces, c'est-à-dire la province de l'Équateur, la province du Kasaï occidental, la province du Katanga, la province du Nord et Sud-Kivu, la province de Maniema et la province orientale. Pour Kinshasa, nous avons un programme que nous appelons programme de recouvrement des coûts. Comme on n'a pas un financement soutenu, on peut quand même avoir des moustiquaires qui sont revendus à son coût. Parce que le 0,5 là, comme je vous disais, ce n'est pas ça le coût réel de la moustiquaire. La moustiquaire en elle-même, rendue Kinshasa, elle coûte dans les dollars. Mais dans les autres provinces que j'ai citées, la femme enceinte peut trouver sa moustiquaire à un prix fortement subsidié.
Combien de femmes enceintes recourent aujourd'hui à la moustiquaire imprégnée pour se protéger contre les piqûres de moustiques, contre la malaria? Nous aimerions bien le savoir, je dis alors. Alors nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays, et surtout vous, les femmes enceintes, ceci vous concerne, allez réagissez au 081 070 20 50. Est-ce que certaines parmi vous étant malades pendant qu'elles étaient enceintes ont recours à ce qu'on appelle un traitement préventif intermittent? On vous l'a expliqué, aujourd'hui on en parle avec notre invité. Je dis alors, Mbali Voto, merci beaucoup de nous avoir présenté ce dossier. À la prochaine.
À la prochaine. Pour Capi Action, Nikongaka et jeudi une Kachamba.
Docteur Koko Kusumbu, vous êtes chef de service chargé du traitement préventif et intermittent au programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. C'est un programme qui existe, mais on découvre ce programme aujourd'hui dans cette émission. Bon nombre ne le savaient peut-être pas. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend exactement par traitement préventif et intermittent dans ce programme que vous dirigez?
Le traitement préventif intermittent, c'est un traitement qu'on donne à la femme enceinte en deux doses. On utilise les médicaments qu'on appelle la sulfadoxine pyrimethamine. Donc, la femme enceinte, dès qu'elle a 16 semaines de grossesse, c'est-à-dire que quand la femme enceinte commence déjà à sentir les premiers mouvements de son enfant dans le ventre, elle doit aller à la CPM. C'est dans ce moment-là qu'on va lui donner sa première dose de la sulfadoxine pyrimethamine.
C'est nouveau ça, est-ce que ça a toujours existé qu'on demande aux femmes enceintes d'aller prendre des doses pendant qu'elles ont 2 mois, 3 mois de grossesse?
Non, nous voulons que la femme enceinte se présente après le 3e trimestre de grossesse, c'est-à-dire au début du 4e mois de grossesse. La femme enceinte doit aller à la consultation. Parce qu'en allant à la consultation, elle sera appelée à bénéficier de son premier traitement préventif intermittent qui va réellement la protéger, qui va protéger son enfant du paludisme.
Donc vous voulez dire que ce traitement, c'est pour lutter contre la malaria?
Bien sûr, c'est un traitement pour lutter contre la malaria, c'est dans la prévention. La femme enceinte se sent bien, mais quand elle part à la consultation, elle doit bénéficier de cela pour protéger son enfant de la malaria.
Et on applique ce type de traitement préventif intermittent depuis quand exactement?
C'est depuis longtemps qu'on applique ces traitements, parce que le programme national de lutte contre le paludisme est né en 1998. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à appliquer le traitement à la femme enceinte. Mais il est vrai que beaucoup de femmes ne connaissent pas qu'elles doivent bénéficier de ces traitements.
Alors pour expliquer encore plus toutes ces femmes qui nous suivent, retenons que bon nombre ne vont pas en consultation prénatale, mais aujourd'hui elles doivent savoir que c'est conseillé d'aller en consultation prénatale parce que ça protège, ça les protège et puis ça protège en plus leurs enfants, l'enfant qu'elles portent dans le ventre. C'est quoi exactement ce qu'on leur donne, les doses qu'on leur donne dans ce traitement préventif intermittent?
Oui, comme je l'ai dit au début, le traitement qu'on leur donne, c'est la sulfadoxine pyrimethamine.
Ça veut dire
le nom scientifique.
C'est la quinine?
Non.
C'est le fancidar?
Effectivement, c'est le fancidar, c'est le fancidox, communément appelé. Mais le nom scientifique, c'est la sulfadoxine pyrimethamine.
Donc on leur fait une piqûre?
Non, ce sont des comprimés. C'est la femme enceinte qui a 60 kilos, elle est appelée à bénéficier de 3 comprimés de sulfadoxine pyrimethamine. Ça, c'est pendant la première dose. Voilà. Et la deuxième dose, elle doit en principe revenir à la 28e semaine pour recevoir sa deuxième dose de traitement.
Plus ou moins 6 mois de grossesse.
Voilà.
3 mois de grossesse, la première dose, des comprimés qu'on administre aux femmes, qu'on donne aux femmes, qu'elles prennent sur place ou bien qu'elles vont prendre chez elles à la maison.
Ce n'est pas 3 mois de grossesse, c'est au début du 4e mois de grossesse.
Au début du 4e mois?
Tout à fait. Mmh. La deuxième semaine correspond au début du 4e mois de la grossesse. En principe, nous voulons que quand la femme arrive, ces traitements doivent être surveillés par le prestataire. Donc, elle doit prendre les médicaments devant le prestataire pour être sûre que la femme a pris. Parce que quand on donne les médicaments à la femme et qu'elle rentre à la maison, c'est pas sûr que la femme a pris les médicaments. Mmh. Voilà pourquoi nous recommandons que quand la femme arrive, elle doit prendre ça devant le prestataire.
Mmh. Alors, pourquoi partir de 4 mois seulement? Parce que bon nombre disent que bon, il faut déjà prévenir, il faut déjà protéger la femme à partir du premier trimestre, autrement dit du 3e mois, avant le 3e mois même.
Vous savez que la femme enceinte n'est pas comme les autres personnes. Mmh. Elle ne peut pas prendre de médicaments comme ça pendant la première trimestre à cause des effets tératogènes des médicaments. Vous pouvez voir que la femme prend des médicaments pendant le premier mois de grossesse. Il y a des malformations. Ça peut causer des malformations aux enfants. Mmh. Voilà pourquoi nous voulons que à partir du 4e mois, la femme commence à recevoir ce médicament, il n'y aura pas de problème.
Il n'y aura pas de problème. Les comprimés de Sensidar, hein, parce que là, au moins, les mamans nous comprennent sans problème, les papas aussi. Et puis après, 2 mois après, c'est-à-dire au 6e mois, elles prennent la 2e dose, hein, toujours le même médicament.
Hein. Oui, à la 28e semaine de grossesse, elle va prendre sa 2e dose. Mm. Mais il faut savoir que nous avons deux types de femmes. Il y a la femme qui est séronégative, qui n'est pas atteinte du sida. Elle est appelée à bénéficier des 2 doses. Mais la femme qui est atteinte du sida, elle est appelée à bénéficier des 3 doses. La première dose, c'est la 6e semaine, la 2e à la 28e semaine, et la 3e dose à la 32e semaine.
Donc avant l'accouchement.
Tout à fait, à la 32e semaine. Il ne faut pas que la femme enceinte prenne le médicament après la 34e semaine, parce qu'il y a également des méfaits qui peuvent se produire.
Et est-ce que ce traitement, comme je dirais, existe dans tous les centres hospitaliers du pays?
Oui, madame la journaliste, la sulfadoxine pyrimethamine est parmi les médicaments essentiels qui doivent exister dans un centre de santé. Donc en principe, ce médicament existe partout dans
et on distribue ça gratuitement aux femmes enceintes.
Bien, c'est un coût vraiment moindre.
Mmh. Mais à supposer que malgré que cette femme enceinte a eu à suivre ce traitement préventif intermittent, autrement dit, on lui administre du Sensidar, hein, pour ne pas employer vos termes savants, hein, pendant les 3 premiers, en fait, pendant les 3 doses, on lui donne ce traitement. Mais à supposer qu'elle soit quand même confrontée à la malaria, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Si la femme enceinte est confrontée à la malaria, elle ne doit pas rester à la maison. Elle doit aller au centre de santé. C'est là où les prestataires vont vraiment...
Ça peut arriver, malgré qu'elle a suivi le traitement.
Oui, mais ça peut arriver qu'elle souffre de la malaria, parce que nous savons que dans notre pays, les moustiques sont là du 1er janvier au 31 décembre. Les moustiques nous piquent.
Parce que souvent, les femmes enceintes sont... Elles sont souvent, en tout cas, attaquées. On dit que ce sont des femmes très sensibles, hein, parmi les personnes vulnérables. Et malgré qu'elle suive le traitement, bon nombre aujourd'hui sont tout de même impliqués par la malaria.
Voilà pourquoi nous voulons que, même si la femme enceinte doit prendre les traitements préventifs intermittents, il y a également la moustiquaire imprégnée qui doit assister la femme enceinte.
Mais combien est-ce recours à ces moustiquaires imprégnées? Et surtout que ce n'est pas gratuit, hein?
Oui, c'est gratuit aux personnes vulnérables là où il y a des appuis des partenaires.
C'est-à-dire
que là où les centres de santé qui sont appuyés par des partenaires, ce partenaire-là amène des moustiquaires dans le centre de santé. Ils amènent le moustiquaire dans la zone. Et quand la femme se présente à la CPN, la moustiquaire coûte des 0$ à 0,5. Mmh. Donc il y a des femmes qui sont vraiment pauvres. Là, on peut leur donner des moustiquaires gratuitement, mais en soi, la moustiquaire ne coûte pas, c'est 0,5.
La femme qui nous suit à Kanyabayonga, par exemple, ou encore à Guadolité ou à Mahagi, est-ce qu'elle peut avoir également cette moustiquaire imprimée lorsqu'elle se rend en consultation prénatale dans un centre hospitalier de la place?
Oui et non. Mm. Oui, si la zone de santé, là où la femme réside, est appuyée par un partenaire. Là, elle pourra recevoir la moustiquaire. Mais ce n'est pas partout également. Voilà pourquoi, réellement, nous invitons le partenaire à venir réellement appuyer le programme en amenant beaucoup de moustiquaires pour réellement protéger cette femme. Parce que nous ne voulons pas que la femme qui veut donner naissance puisse mourir.
Est-ce qu'il y a des cas, puisque vous parlez de mourir, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les statistiques aujourd'hui, les femmes enceintes qui meurent à cause du paludisme?
Pour le moment, je n'ai pas des statistiques en tête sur le pourcentage de femmes qui meurent. Mais nous savons que pour les enfants de moins de 5 ans, nous savons qu'un enfant meurt toutes les 30 secondes.
Mm-hmm. Du paludisme.
Oui.
Mm-hmm. Alors aujourd'hui, nous savons que bon nombre de femmes, vous avez suivi hein, tout à l'heure les réactions des mamans qui ont dit bon, là, il se trouve dans un zéma, il y a un hôpital, au moins, il y a un soutouki, et puis il y a un bossi. Il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas en consultation prénatale, il faut le reconnaître, parce que les consultations coûtent cher.
Bien, les statistiques ont montré que les femmes qui fréquentent les consultations prénatales sont à 66%. Mais il y a un grand problème, il y a un problème sérieux.
C'est plus, je dirais, dans la capitale peut-être.
Non, c'est une étude qui a été faite dans tout le pays.
66% dans tout le pays.
Oui, 66%. Mais les 66, vous devez savoir que dans un coin, on peut avoir 80%, dans l'autre coin, 20%. Et quand on fait la sommation du pays, ça diminue. Mais il y a également un problème sérieux. Dans la communauté des femmes, nous voulons sensibiliser ces femmes-là. Voilà pourquoi nous voulons mettre en compétition. Et nous les mettons déjà, les relais communautaires. Les relais communautaires sont dans la communauté pour sensibiliser les femmes.
Mais pourquoi ne pas rendre ces consultations prénatales gratuites pour toute la RDC, c'est l'idéal, non? Au moins, là, on éviterait des morts.
Ces consultations sont déjà prises en charge par les bailleurs qui sont dans des zones de santé. Mais là où il n'y a pas des intervenants de partenaires, c'est un peu difficile. Mais il se fait que la réflexion se fait toujours. Parce que nous voulons que cette femme-là, nous ne voulons pas qu'il y ait des barrières pour la femme enceinte à ne pas se présenter au centre. Parce que c'est dit, non, je dois payer la fiche, je dois payer ça. C'est ce qui fait que les femmes n'y vont pas. Mais on cherche de voir des moyens pour que réellement on puisse rendre la consultation prénatale gratuite.
Et ça implique quoi, une consultation prénatale plutôt? Vous avez dit, normalement, les femmes suivent ce que vous appelez un traitement préventif intermittent, trois doses, en suivant quelques. Vous avez divisé ça en trois, pendant les 9 mois de grossesse. Mais hormis le traitement préventif intermittent, ça implique quoi encore, une consultation prénatale?
Dans la consultation prénatale, quand la femme arrive, elle doit payer sa fiche. Quand elle paye sa fiche, en payant sa fiche, les médicaments également sont inclus dans la fiche, là, dans la fiche de CPM. Donc la femme, quand elle arrive, elle paye un petit prix là, pour avoir la fiche, et les médicaments qu'elle doit prendre sont inclus également dans le prix de la fiche en question.
Mais est-ce que la femme enceinte prend d'autres médicaments que les médicaments contre la malaria?
Oui, si elle souffre d'autres maladies, par exemple, si elle a l'anémie, on peut lui administrer le fer. Si elle a des vers, on peut lui administrer le médicament contre le vers et tout.
Et tout ça, on voit ça pendant la consultation prénatale.
Oui, tout ça, nous ne voulons pas que la femme enceinte prend le médicament en dehors de la consultation. Parce que c'est là où on doit en principe la suivre correctement pour que sa grossesse aboutisse.
Il y a certaines femmes qui nous ont dit dernièrement que bon, Ngaï, je le dis en Lingala parce qu'elle l'a dit aussi en Lingala, Ngaï pendant consultation prénatale, Ngaï Bazorama pesé, et puis ça n'a pas été. Et puis une autre encore nous a dit mon Ngaï tension. Alors bon, tout cela implique également pendant la consultation prénatale.
Oui, donc la femme c'était un tout. Voilà pourquoi nous voulons parler de la CPM recentrée. Quand la femme vient, on lui prend en charge totalement. De toutes les maladies qu'elle va souffrir, on va prendre en charge. Voilà pourquoi on parle de CPM recentrée.
Mais quelle est l'importance de vérifier la tension d'une femme enceinte, vérifier son poids, lui donner un vaccin, tout ça, pourquoi? Ça rime à quoi?
Tout cela a une importance capitale pour la femme enceinte. Par exemple, pour la tension. Quand on prend la femme, la tension, et cette tension est élevée, cela peut causer les décès même de l'enfant. Vous comprenez, c'est tellement important que la femme arrive à la CPM. Parce que là, le prestataire est suffisamment outillé pour l'aider à bien acheminer sa grossesse jusqu'à la fin. Et vous devez savoir que toutes les femmes doivent savoir que toute grossesse est à risque. Donc voilà pourquoi nous voulons qu'elle vienne à la consultation. Là, vraiment, on doit la prendre en charge correctement pour que sa grossesse puisse aboutir à un bon accouchement.
Vous avez quelques réactions des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit, il s'appelle Mayombo Poro. Il dit, Nathalie, il nous donne sa question. Il dit, Nathalie, Awa, la cabine d'un, on dit, si les gens qui l'ont mis au saut, la zobe, la liste, c'est ma casse, c'est malaria. Mais ça la nini. Voilà, la question. Je t'adresse à vous directement. C'est bien que vous puissiez lui répondre directement, Lingala.
Oui, non, Motuna Wana est allé boyer. Maman Oazo Bangongi va déranger Ningi avant d'ananda kouté. Il faut akende kokutana na monganga ou azana centre de santé zapende nianda kounaye. Ce qui a commis kuna, monganga wana a yebi ndengi nini a kosala que
à traiter la maladie à Zorbela. Nous avons conseil à faire ça y est pour prochainement à pouvoir réellement coéditer mon macabre pour la commémorer de Naïm Alam.
Docteur Koko Kofumbo, nous rappelons que vous êtes chef de service chargé du traitement préventif intermittent au programme national de lutte contre le paludisme. Il y a une personne hein, qui s'appelle Mathias depuis Bounia qui aimerait savoir quel est le traitement le plus efficace pour lutter contre la malaria. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme si ces différentes cures hein, sont devenues inefficaces.
Je ne pense pas que les différentes cures sont devenues efficaces. Dans la prévention, comme je l'ai dit, c'est le traitement, c'est avec la sulfadoxine pyrénétamine. Et maintenant, dans le traitement, quand la femme présente tellement la fièvre, elle va au centre de santé. Les traitements qu'on lui prescrit, c'est la quinine. C'est la quinine féroce en oral.
Elle c'est le traitement final.
Pardon?
Le traitement final.
Oui, pour la femme enceinte, dans la prévention, il y a la sulfadoxine pyrénétamine. Et dans le traitement, c'est la quinine qu'elle doit bénéficier. Mmh. Et les prestataires du centre de santé connaissent que quand la femme arrive, c'est la quinine qu'elle doit prendre. Qu'elle doit
dans la prévention, ce que vous appelez.
Sulfadoxine pyrénétamine.
Voilà, c'est en fait du fonsidar.
Oui, madame.
Mais bon nombre nous disent que le fonsidar aujourd'hui est devenu efficace. Inefficace, madame, mais là, fonsidar, mais malaria, on vous oscillate, plus on vous oscillate. C'est ça hein, qu'on entend souvent, madame.
Les gens doivent savoir que les fonsidar en question est utile que pour la femme enceinte. Pas pour les autres personnes. C'est seulement pour la femme enceinte et dans la prévention. Ce n'est pas dans la quand la femme enceinte tombe malade et on lui donne la sulfadoxine pyrénétamine. Mmh. C'est seulement pendant la prévention.
Mmh.
Mais pour les autres personnes, ils sont pas appelés à prendre la SP. Il y a un autre médicament très efficace que nous, on a mis en ligne. C'est la modiatine artésunate. C'est ces médicaments-là que les gens doivent prendre quand ils sont malades et c'est mieux qu'ils se présentent au centre de santé. L'infirmier va prescrire la modiatine artésunate. C'est le meilleur médicament contre la malaria stable.
Voilà, alors qu'est-ce que... En fait, il y a beaucoup de questions qui nous arrivent. Hein. Alors, on les pose un peu de façon pêle-mêle. Hein. Alors, est-ce que l'administration de la quinine n'est pas dangereuse pour les femmes enceintes? Parce que nos filles et femmes l'utilisent après... bon, ça c'est ce que notre auditeur nous a dit. Les filles, je reprends textuellement ce qu'il nous a dit. Nous-mêmes, nous sommes un peu surpris. Il dit nos filles et nos femmes l'utilisent après l'accouplement.
Ça, c'est communément l'habitude des gens, mais ils doivent savoir que ça n'a pas d'effet. En principe, la quinine, c'est un médicament qu'on prend pour se traiter de la malaria. Mais les autres en profitent, après l'accouplement, ils prennent.
Vous êtes au courant de ça? Vous en avez déjà parlé?
Oui, madame, on nous a déjà parlé de ça.
Mais comment je vis, alors que la quinine, tout le monde sait que la quinine, c'est pour lutter contre la malaria, ça commence à avoir une autre utilité.
Et les gens pensent qu'en prenant la quinine, ils ne vont pas soit tomber enceinte ou quoi que ce soit, mais ça, c'est l'heure.
Ils ne s'exposent pas aussi.
S'exposer, c'est-à-dire,
ben oui, en prenant la quinine alors qu'ils ne sont pas malades. Bon, il faut reconnaître que la quinine, lorsqu'on est malade, on a la malaria.
Tout à fait, voilà pourquoi nous profitons de l'occasion pour leur dire que ce n'est pas bon de prendre le médicament abusivement. Mm-hmm. C'est un traitement, c'est un médicament qu'on prend quand les gens sont malades.
Mm-hmm. Nous retenons que pour tout le monde, c'est le traitement que vous préconisez, c'est la modiatine. Hein.
Oui, la modiatine artésunate pour tout le monde. Oui.
Ça, c'est le traitement préventif.
Non,
pour tout le monde.
Quand la personne est malade, c'est un traitement curatif.
Curatif, oui. Et la quinine?
La quinine, c'est aussi un traitement curatif. Mais maintenant, quand la personne qui a pris la modiatine artésunate, c'est pour le cas de paludisme simple. C'est-à-dire que quand la personne a la fièvre, parce que le paludisme simple est caractérisé par la fièvre. Mmh. Vous avez la fièvre, un peu de maux de tête, la personne...
Vous n'êtes pas à l'hôpital, mais vous ne vous sentez pas bien. Hein, comme souvent les Congolais disent, Nazo Kamali, on entend ça souvent, Nazo Kamali, alors bon, je prends un peu de paracétamol, et puis après, bon, on complète quand même avec ce traitement-là, la modiatine.
Oui, mais nous voulons quoi? Nous voulons que quand la personne est malade, c'est présente au centre de santé. Mais c'était que les statistiques ont montré qu'il n'y a que 20% des personnes qui sont malades qui se présentent à la consultation, et 80% restent dans la communauté. Voilà pourquoi nous faisons des études pour voir comment est-ce que ces médicaments peuvent être pris en charge, peuvent être consommés dans la communauté sans que les gens viennent.
Mmh.
Voilà pourquoi nous allons mettre en contribution les relais communautaires qui vont commencer à conseiller les gens dans la communauté comment est-ce qu'ils vont, il sera bien prendre
ces médicaments. Ça sera mis sur place quand?
Les relais communautaires existent déjà sur place. Mmh. Ils sont là dans la communauté avec nous. Ils habitent dans nos quartiers, dans nos avenues. Mais maintenant, il reste maintenant leur formation pour qu'ils puissent être capables de conseiller également les autres personnes.
On va les voir circuler.
Oui, mais pour le moment, ils conseillent les autres personnes d'utiliser la
diagnostiquaire, d'aller au centre de santé, mais pour prendre les médicaments, beaucoup d'entre eux ne sont pas encore formés.
Alors, beaucoup de gens vous suivent, hein, parce que vous avez dit tout à l'heure que le traitement pour tout le monde, c'est la modiaquina,
par tésunate,
mais pour les femmes enceintes, c'est nécessairement un recours au traitement préventif intermittent, c'est-à-dire les 3 doses de Francidar. Hein.
Oui, ça, c'est dans la prévention. Et nous devons savoir que dans la prévention, il n'y a que pour la femme enceinte pour le moment. Mais les autres tranches, eux, dans la prévention, il n'y a rien. Il y a la moustiquaire, après les insecticides.
Seulement la moustiquaire.
Oui. Ils dorment sous la moustiquaire, et quand ils ont la fièvre, ils sont malades, ils vont au centre de santé. C'est en ce moment-là qu'on va leur prescrire la modiaquine artisanale.
Je suis religieusement, docteur Coco Koukoumbou, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent, mais pourquoi ne pas faire également le traitement préventif intermittent chez toutes les personnes, pas seulement les femmes enceintes. C'est pour celui-là, c'est plus Guéménin qui vous pose cette question.
Nous disons que les cibles, les personnes qui sont vraiment faibles pour la malaria, il y a les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Mmh. Et les femmes enceintes, comme elles portent un bébé dans son ventre, on donne la cyclodoxine pyrimétamine qui a un effet sur le placenta. Ça lave réellement le placenta et ça permet le passage du nutriment de la mère à l'enfant. C'est-à-dire l'enfant va bien grandir et tout. Mais quand vous voyez que la femme ne se présente pas, les moustiques, quand ils piquent la femme, les microbes se placent au niveau du placenta. Et ça empêche le passage du nutriment de la maman vers l'enfant. Et voilà pourquoi nous voyons d'autres enfants naître avec un petit poids de naissance. Maintenant, c'est une sulfadoxine pyrimétamine. Quand la femme
prend, le placenta,
ça agit au niveau du placenta. Ça lave les muscles placentaires et ça permet réellement le passage du nutriment de la mère
l'enfant
à l'enfant.
L'enfant est bien nourri.
C'est ce que nous disons chez cette personne. Maintenant, pour les autres personnes, il n'y a pas de traitement préventif. Il y a la moustiquaire interne des insecticides, mais il y a également les personnes qu'on dit communément, qui sont fait beaucoup de temps à l'extérieur du pays. Quand ils arrivent, ils peuvent prendre.
Si
la prévention, on leur donne la cyclodoxine pyrimétamine aussi.
Comme les femmes enceintes.
Oui, en une dose.
Voilà. Nous retenons que pour les femmes enceintes, dans le traitement préventif intermittent, il y a le Francidar, trois doses.
Oui,
tout le monde.
3 doses pour celles qui sont séropositives, qui sont atteintes du sida.
Voilà.
Mais 2 doses pour les femmes qui sont séronégatives.
Tandis que pour tout le monde, c'est la modiaquina.
Et une astuce malade.
Mais quand on est vraiment très malade, c'est là qu'on recourt à la kiné.
Tout à fait.
La kiné, on ne prend pas ça à tout moment, quand on est malade. Il faut attendre vraiment qu'on soit réellement très malade et en plus qu'on ait ce que vous appelez qu'on ait suivi une consultation sous un médecin, que le médecin vous prescrive la kiné, c'est en ce moment-là qu'on peut prendre ça. Alors, pour terminer, Yvan, depuis que les îles nous dit ici les hôpitaux ne sont pas informés, tous les bébés naissent malades, ils ont la malaria. Ça, c'est depuis qu'on les dit.
Bébé naître avec la malaria, les études ont été menées disent que il n'y a pas un grand pourcentage. Parce que quand le bébé naît, le bébé bénéficie des anticorps de sa mère. Mais le paludisme néonatal, c'est pas vraiment fréquent.
C'est réel.
Voilà pourquoi je pense que pour cette zone de santé-là, la Colombie, le médecin des zones est là, les prestataires sont là. Je pense que quand la communauté est suffisamment sensibilisée et que les gens passent réellement au centre, vous verrez que réellement c'est qu'à l'avant.
On aura l'occasion de revenir sur cette question parce qu'il y a eu beaucoup de questions qu'on vous a posées, docteur Coco Koukoundou. J'ai encore massacré votre nom. Hein. Et nous rappelons que vous êtes le chef de service chargé du traitement préventif et intermittent au programme national de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Hein. Vous allez revenir parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas pu épuiser le sujet prochainement pour d'autres détails. Merci. Hein.
Merci, je suis disponible. Oh,
I'm gonna go to the hospital.